Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 180e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 30 et ce soir nous allons parler de Marvel avec encore une fois une grosse sortie. C'est la fin d'Inhumanity, la version Mad Fraction. Et puis nous parlerons aussi de Spider-Man ou encore de Uncanny Avengers. La partie indé comportera qu'un seul titre, Crossed Badlands. Et enfin, la partie d'essai avec du Batman et Robin, du Earth 2 ou encore du Green Lantern Corp version Annual. Et puis d'autres titres comme Teen Titans ou Talon. En fin d'émission, vous retrouverez la liste des TPB comme chaque semaine. Je suis Steve, vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir pour vous parler de toutes ces nouveautés, Flo !
Bonsoir, chers collaborateurs, bonsoir, chers auditeurs.
Et Mister René Benny !
Je pensais qu'il allait dire bonsoir, chère collaboratrice, en parlant de moi, mais il n'a pas osé. Bonsoir à tous et toutes, et toutes et tous.
Et oui, tu remplaces Bruno avec sa catchphrase qui n'est pas là ce soir.
Ouais, voilà, il n'est pas là.
Parce que le petit diable est à Angoulême.
C'est vrai, c'est en ce moment ?
Mais oui.
Tu sais, j'ai ah bon, déjà.
Oui, oui, du jeudi au dimanche, dernier jeudi au dimanche du mois de janvier, comme chaque année depuis 41 ans maintenant.
Voilà. Non, mais je sais pas.
C'est bien d'être à la page.
Ah non, je pense que les premières années c'était pas 4 jours d'ailleurs, mais.
Ouais, c'est vrai que c'est déjà Angoulême, une édition qui m'intéresse pas du tout et à laquelle je ne vais pas cette année.
Oh, une édition qui pouvait être assez intéressante, je pense, mais moi qui m'empêche d'y aller à cause de mon boulot, tout simplement.
Voilà, bah oui. C'est pour tout le monde un peu pareil.
Quand on bosse tous les week-ends, samedi et dimanche compris, forcément, c'est plus difficile pour se rendre à Angoulême. Et c'est pas le dimanche après-midi que je vais y aller, quoi. C'est même pas la peine.
C'est que Bruno est libraire, vous voyez. C'est pas un métier non plus extrêmement sérieux, donc bon. Voilà, il peut voyager, quoi.
Faisons-nous des amis en une seconde. Allez, on va démarrer avec.
Il n'y a aucun rapport, hein. Il n'y a aucun rapport, surtout entre le festival et son activité professionnelle. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il va foutre là-bas. Quoi.
Aucun.
Des vacances, prendre des vacances, visiter cette
Mais
merveilleuse
c'est ça,
ville d'Angoulême.
C'est ça. Il paraît qu'il y a des endroits assez chauds là-bas en plus.
Allez, on va démarrer notre salve de review avec du Marvel. Et c'est toi, Mister Honey Bunny, qui va commencer en nous parlant du 16e épisode de Uncanny Avengers.
Ah, bah oui, bah alors, ce serait bien que je l'ai sous les yeux. Comment s'appelle-t-il ? Rick Remender est au scénario et
meilleur début de review de l'année.
j'ai même oublié son nom. Rick Remender donc et Steve McNiven au dessin. Et bah écoute, ça continue hein, encore. J'ai l'impression que ça n'en finit pas au fait cette saga avec Uriel et Emin.
Bah, voilà, jusqu'au 25 leur... apparemment donc.
Oh là là là, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Là, franchement, là, j'en peux plus, quoi. En plus, on est qu'au 16e. Je sais pas si vous en rendez compte. Il en reste encore une dizaine là-dessus. De toute façon, il se passe pas grand-chose dans cet épisode. Voilà. Alors, Thor affronte Uriel ou S. Emin, je ne sais plus. En tout cas, il affronte l'un des deux. Pour se disputer cette espèce d'arme qui s'appelle le... j'ai oublié le nom aussi, là. Cette espèce de faux, un petit peu comme son marteau qui a des super pouvoirs. Enfin, voilà. Captain America, lui, est en bien mauvaise posture, et justement, il fait face à Emin ou Uriel, voilà, alors je ne sais pas lequel, je crois que c'est Uriel, ça doit être la nana. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire de cet épisode, quoi, hein, c'est, il y a un petit peu d'action, c'est vite lu, vite expédié, graphiquement, c'est du Steve McNiven, donc c'est pas dégueulasse.
C'est vite lu pour Uncanny Avengers, c'est étonnant. D'habitude, il faut au moins 25 minutes pour en lire un.
C'est surtout dû à Steve McNiven, je pense. Comme il nous fait quand même des assez grosses cases, des assez gros dessins. Voilà, c'est pas mal d'action, il y a pas beaucoup de dialogue dans cet épisode. Puis bon, un cliff assez convenu. Non, franchement, moi j'en ai juste marre de cette intrigue. J'aimerais bien que ça avance un petit peu, et là ça avance pas du tout. Il y a eu quelques trucs là, il y a quelques numéros, il y a eu quelques morts, même un bon paquet. Je sais pas comment ils vont faire pour les faire revenir après ça. Mais là, voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire de cet épisode.
D'accord. Bah,
Bah
on
oui.
n'attend plus que ta note maintenant.
Ben ouais, un check-it simplement, parce que j'ai envie de dire que même en loupant cette lecture, vous pourrez très bien vous replonger dans cet arc sans problème, à mon avis.
Très bien. On continue avec le deuxième numéro d'Inhumanity, anciennement nommé Inhumanity Medusa, qui sert de conclusion à la partie Mad Fraction sur Inhumanity, puisque c'est
Non,
le.
non, 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 qui sert de conclusion à Inhumanity, à mon avis. Ça marche tellement peu qu'ils vont dire, oh, fuck, allez, on termine là.
C'est son chant du cygne, hein, sur cette idée des
Chez
inhumains
Marvel.
qui des inhumains qui ont eu leur cité qui s'est écrasée sur Terre pendant le crossover Infinity et qui ont relâché les brumes tératogènes et qui font muter un petit peu tous les gens qui ont un bout d'ADN inhumain en lui depuis des dizaines de milliers de millions d'années. Donc, Matt Fraction est au scénario, Nick Bradshaw accompagné de Todd Knock au dessin. Et à l'ancrage, on va retrouver Nick Bradshaw, Scott Hanna, Tom Palmer et Todd Knock. Alors, bah, on le sait, hein, Matt Fraction devait écrire la série Inhuman qui va débarquer maintenant au mois d'avril, qui était censée sortir au mois de janvier. Finalement, on a su pourquoi des divergences créatives entre lui et Marvel. Ceci sert à clôturer un petit peu les idées qu'il avait mises en place et honnêtement, ben, je vois pas où il voulait en venir. Avec donc cet épisode 2, je ne comprends pas du tout où il voulait en venir. J'ai trouvé ça assez inintéressant, en fait. Pour ne pas dire totalement inintéressant. On a deux, trois splash pages. On a déjà un partage de dessin entre Nick Bradshaw et Todd Knock. Et même si j'aime bien les deux, je dois avouer que la rupture de style graphique est assez désagréable en plein milieu de l'épisode.
Oui, alors on se demande même si les pages de milieu d'épisode sont pas encore d'une troisième personne, tellement elles sont extrêmement moches par rapport à la fin d'épisode de Todd Knock, qui est un peu plus sympa à voir.
Bah, il y a
quatre
encreurs.
Il y a des pages vraiment immondes où tu te dis le gars, il a fait trois traits pour faire les bonhommes, quoi.
Mais le truc,
c'est
voilà,
rushé, hein.
avec quatre encreurs, va savoir qui a ancré quelle partie, parce que c'est vrai qu'on a des traits d'ancrage qui sont quand même sacrément grossiers, je trouve.
Ouais, c'est pas un beau numéro.
Je
C'est pas
pense
un
que
truc
les
beau à
parties de
voir.
milieu doivent être ancrées par Tom Palmer. Je pense. Après, ça reste
Ah, je sais pas, mais les
une
parties du
hypothèse.
milieu sont vraiment moches. C'est dur.
Par contre, on a de très jolies pages. On a cette espèce de splash page avec Captain America qui regarde sur un New York assez dévasté. Cette splash est magnifique. La page d'après où on a des cases qui sont séparées par les cheveux de Médusa est pas mal venue, je trouve, en termes de storytelling. Mais alors, c'est dommage, ces ruptures graphiques sont assez désagréables. Alors déjà que le numéro est pas excellent, en plus ça n'arrange pas la lecture et ça donne pas vraiment envie de s'y mettre, quoi. Et
Moi, je
puis,
me pose toujours la question. Pardon, je me pose toujours la question de savoir qui va encore s'intéresser à tout ça dans quelques mois en plus, puisque non seulement c'est pas passionnant, mais on va nous faire attendre pour avoir la suite de cette intrigue. C'est quand même problématique. Je
mais
sais pas du tout.
il n'y aura pas de suite à cette intrigue en fait. On va partir sur la série Inhuman qui va être écrite par Charles Soule et dessinée par Joe Madureira. Et c'est
Il y aura
seul.
un lien, non?
Il y a un lien avec. Je veux dire, c'est comme l'Heroic Age ou Dark Reign. Je veux dire, Inhumanity, c'est ni plus ni moins que un tag sur une cover, quoi. C'est cet ensemble de titres qui sont liés avec cet événement qui est la chute de la cité Attilan et
Ouais. Non,
les brumes tératogènes qui se sont répandues et qui font muter certains humains, quoi.
Ce que je veux dire, c'est que ça a un rapport avec les inhumains, et là, ce qui nous montre des inhumains, c'est tellement peu passionnant que voilà, qui aura envie d'aller s'essayer à la suite?
Bah,
Bah, là,
étant donné
c'est.
que on a deux gros noms, Charles Soule, qui a énormément le vent en poupe en ce moment, et à juste raison d'ailleurs, et Joe Madureira, qui, on le sait, attire énormément les foules, le numéro 1 se vendra sans problème, et apparemment on va partir sur totalement autre chose. Donc je pense que les gens qui ont lu ça et qui ne sont pas passionnés, de toute façon, ont tout intérêt à aller voir Inhuman numéro 1 pour voir autre chose, justement.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Steve. Là, Là, honnêtement, ces deux numéros étaient pas passionnants. Le premier, un peu plus, je trouve, que le deuxième. Là, ce numéro est pas génial. Voilà, on va parler de Médusa qui va un petit peu enquêter sur ces fameux cocons, justement, d'inhumains, là, qui sont un peu sur toute la planète. Les gens commencent à se transformer et ils sont enfermés dans des cocons. Ces cocons se font voler et voilà, elle va enquêter.
Ou détruire,
oui. Et on va, voilà, on va apprendre, en apprendre un peu plus sur ces vols ou ces destructions. C'est pas du tout passionnant, c'est assez convenu. J'ai lu ça comme. Ça m'a vraiment emmerdé, quoi. Bon, visuellement, moi, j'ai trouvé ça assez moche. Les pages de Bradshaw sont bien, c'est pas le meilleur Bradshaw, mais elles sont plutôt sympas. La suite, je suis pas fan.
Un gros reproche, moi, sur la Jean Grey, j'aime planter la Médusa de Todd Knock, qui justement, il la dessine vraiment trop comme Jean Grey, quoi.
Ah oui,
il y a des moments
où
je me posais la question de savoir qui c'était. Il y a des choses intéressantes de la part de Matt Fraction, notamment le rappel pour ceux qui justement auraient un peu de mémoire au Unspoken, cette espèce de roi, d'ancien roi inhumain qui avait été complètement effacé de l'histoire. Ça avait été publié en français par Panini il y a de ça, je dirais 3-4 ans. On en avait parlé à l'époque dans des Comic City.
Je me rappelle.
Donc, Matt Fraction n'a pas oublié complètement la continuité des Inhumains. Donc ça, c'était pas une mauvaise chose. Le problème, c'est que au vu de ces deux épisodes qu'il a fait, je comprends pourquoi Marvel n'a pas validé son projet sur Inhuman. Je veux dire, si la suite est aussi chiante que ces deux épisodes-là, je comprends que Marvel ait dit non, quoi. On peut pas lancer la série qui est soi-disant la série la plus importante de l'univers Marvel avec des histoires aussi ennuyantes.
Oui, clairement. Non, bon, enfin voilà, c'est vraiment pas passionnant. Si vous voulez vous intéresser aux Inhumains, vous en saurez plus dans Infinity. Ce sera plus intéressant de lire Infinity.
Non, Inhuman.
Même dans Infinity, comme il y avait pas mal d'Inhumains
qui étaient.
Voilà.
Oui.
Tu vois.
Non, Fury itself.
Et par la suite, prenez Inhumans. Mais là, les deux one-shot Inhumanity sont pas, tant qu'on connaît la fin, comment se déroule la fin d'Infinity, on n'a pas tellement besoin de ça. C'est pas très intéressant, vraiment.
Ouais, faut dire que c'est vrai que Marvel n'a pas de bol. Ils ont mis Matt Fraction sur ça et le résultat n'est pas non plus excellent. Ils ont mis Matt Kint sur la série Awakening, qui est absolument à vomir. C'est pitoyable tellement c'est mauvais. Je préfère me taper 80 épisodes de ça plutôt que me taper les deux épisodes de Awakening une fois de plus.
Ah oui, donc, quand même.
Ça se dit pas Awakening ? Non.
Non, c'est Awakening.
Ah oui, Awakening. D'accord.
Le réveil.
Oui, d'accord.
Du coup, c'est vrai que malheureusement, Inhumanity démarre assez mal, quoi. Donc, cet épisode-là, si vous avez été acheter le premier, je vous invite à vous dire que vous n'êtes même pas obligé de lire le 2. Parce que il n'y a pas réellement de suite entre le premier et le deuxième. Enfin, pas vraiment. Il y a que vraiment, si vous êtes un gros fan des Inhumains, prenez-le, quoi. Mais vous attendez pas à Monts et Merveilles. Vous voyez passer quelques personnages inhumains assez emblématiques, mais c'est vraiment très très vite expédié, quoi. Encore une fois, moi, ce qui me gêne aussi, c'est cette constante de mettre toujours Médusa en avant, qui est quand même un personnage assez faible, je trouve, au niveau charisme. Et même la séparer de son éternel amour Black Bolt, ça a déjà été fait et c'est pas voilà. Il y a des gens qui l'ont fait beaucoup mieux que ça, notamment Abnett et Lanning. Donc pour moi c'est un pass.
Oui, pareil, un pass.
On va continuer avec Mr. René Bunny qui va nous parler de Guardians of the Galaxy numéro 11.now. Après avoir pas beaucoup aimé la première partie de la semaine dernière, il a quand même voulu s'y risquer.
Oui, surtout que c'est pas le même titre, donc on peut espérer quelque chose de bien. Brian Michael Bendis est au scénario et Sarah Piccelli est au dessin. Alors déjà une Sarah Piccelli, je sais pas, un peu moins en forme que d'habitude. J'ai trouvé que c'était, alors ça reste très joli, mais j'ai vu mieux de Sarah Piccelli. Et alors petit jeu, tiens, à votre avis, dans cet épisode, on assiste à la suite de la dernière fois ou ça se termine exactement au même point que l'épisode de X-Men.
La deuxième solution, on va voir tout ce qui s'est passé avant que les Guardians arrivent sur Terre pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés à venir sur Terre.
Eh bien exactement,
C'est
parce
bien.
que c'est Brian Michael Bendis au scénario. Je me suis dit putain, je suis con, pourquoi je l'ai pas deviné avant de lire ce truc? Donc voilà, donc exactement, on voit ce qui s'est passé avant l'arrivée des gardiens, du point de vue des gardiens. Donc bon bah voilà, ils sont dans l'espace. Alors il y a une espèce de scène au début avec un... Alors c'est bien parce qu'on reparle du père de Peter Quill, donc c'est une bonne chose quand même, parce qu'on se demandait ce qu'il est devenu.
On l'a juste oublié depuis l'épisode 2 ou 3, je crois.
Ouais, d'ailleurs on le revoit pour l'occasion. Est-ce qu'il est mêlé à ce qui se passe avec les Shi'ar? Peut-être. Bon, je vais pas le révéler. En tout cas, Peter Quill a des démêlés avec un Skrull qui se fait passer pour Gamora au début de l'épisode. Voilà, bon bah on voit ce qui leur arrive dans l'espace
Là,
à
il faut
chacun.
rappeler quand même que les Skrulls ont repris du poil de la bête depuis Infinity aussi.
Ouais.
Un petit peu de
Bon, enfin.
façon, pour moi, artificielle, hein, mais bon, bref.
Oui bah c'est non mais c'est surtout très convenu parce que dès le début on voit que c'est pas Gamora, enfin on se doute que c'est pas elle, donc forcément c'est un Skrull et bah oui bah c'est un Skrull. Donc c'est même pas un spoiler que de le dire.
Et je rappelle quand même que c'est Brian Michael Bendis qui avait dégagé un petit peu les Skrulls de la continuité Marvel à la fin de Secret Invasion. Et donc là, maintenant qu'ils sont de retour, il se fait une joie de les utiliser, apparemment.
Ouais. Oui, bah il fait un petit peu toujours les mêmes histoires, voilà. Et oui, puis il y a surtout cette scène avec Tony Stark qui tout simplement envoie un message dans l'espace à ses compagnons. Alors comment envoie-t-il un message dans l'espace? Soi-disant, il aura piqué un appareil pour envoyer un message dans l'espace, tout simplement. On va pas s'embarrasser d'autres explications. Et donc il y a son image holographique qui apparaît. Il leur dit, écoutez, les gars, c'était bien sympa nos aventures dans l'espace, mais je peux plus faire partie de votre équipe parce qu'il y a un film Guardians of the Galaxy qui sort et je suis pas dedans. Voilà.
Et il fallait bien trouver une explication quand même. Donc le
Ouais.
trip de Tony dans les Guardians of the Galaxy aura duré quoi? 4, allez, 7-8 épisodes max?
Ouais, voilà. Bah le temps que le temps qu'on se rapproche un petit peu de l'année de sortie tout simplement du film.
Oui, puis ça a été un argument marketing pour faire vendre la série au départ, d'ajouter Iron Man qui avait son film à l'époque au cinéma.
Et
Et puis
puis
qui est quand
surtout,
même un
oui,
personnage
bah.
emblématique. Donc comme ça a attiré les gens qui connaissaient pas Guardians of the Galaxy, qui avaient raté la magnifique série d'Abnett et Lanning. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, oh, il y a Iron Man, on va y aller. Puis bah, maintenant que la série est bien installée, qu'elle explose les ventes, et ben on peut l'enlever.
D'accord. Oui, enfin, je sais, je dis d'accord parce que je sais pas si elle explose les ventes, mais ok.
Oh bah si, elle est toujours très bien placée.
Oui.
Hein.
Oui.
Guardians of the Galaxy dans les tops est quand même vraiment bien placée à chaque fois.
Enfin bon, c'est pas très étonnant effectivement avec le film, etc. Enfin voilà, donc bah il se passe rien dans cet épisode, hein, concrètement. C'est un épisode qu'on
C'est
peut
du
zapper.
Bendis.
Voilà, c'est ça. Et ça se termine sur la même réplique que l'autre fois. Nous sommes les gardiens des galaxies et nous sommes là pour... Ah ben on est arrivé trop tard. Sauf que là tu vois du point de vue de la gueule des X-Men. Avec une qui dit Pride d'ampleur. Ah. Voilà.
On
Donc
a 8
bon bah
dollars,
check it.
merci. 8 dollars. Cling, cling. Ok, c'est bon.
Ouais. Oui. Voilà. En tout et pour tout, deux trucs qui servaient à rien.
Ça fait des mois qu'on vous dit que Bendis vous escroque, hein, si vous continuez, libre à vous.
C'est une machine à faire du fric, hein, c'est dingue. Enfin bref.
Et ouais. Donc bah ta note, Benny, à moins que tu aies quelque chose à
Ah
rajouter
oui.
peut-être sur cet
Non,
épisode
non, check
sensationnel
it,
apparemment.
check it. Je croyais l'avoir dit. Check it. Voilà, tout simplement. Ben non, mais même pas d'ailleurs. Pourquoi je dis check it? Un petit pass. Allez, puisqu'on en a pas besoin. Même
Allez.
si c'est Sarah Cipicelli, elle est moins en forme que d'habitude, j'ai trouvé en plus. Donc bon.
On va passer à la suite, on va passer à toi Flo qui va nous parler de Thor numéro 18, Thor God of
Oui.
Thunder bien sûr.
Oui, histoire de respirer un peu après cet arc très très moyen de Thor face à, et sa ligue des royaumes face à Malekith, qui était vraiment vraiment très très bof je trouvais et qui m'a failli faire arrêter cette série. On part
Ah
sur
bah tiens,
un one
c'était
shot
bon.
qui voilà qui donc une petite pause dans les histoires de Jason Aaron, donc qui est au scénario évidemment, et un guest artiste qui est Das Pastoras, un artiste un dessinateur espagnol qui a un petit peu fait de comics mais qui a surtout fait de la bande dessinée européenne, et son style s'en ressent beaucoup, c'est très années 80 européenne et c'est très joli d'ailleurs.
Ça ressemble vachement à ce qu'on pouvait trouver dans les publications épiques de Marvel, notamment dans les années 80. Ce label un petit peu indépendant qu'avait Marvel à l'époque. Un petit peu le style que l'on voyait aussi dans les choses comme Heavy Metal ou ce genre de choses-là. C'est
Oui,
surprenant, je
tout à
trouve.
fait. Ah bah oui, tout à fait. Non, mais
Visuellement, c'est très surprenant. Je m'attendais
c'est
pas à ça quand
assez
j'ai ouvert
bah,
l'épisode.
Ah oui,
c'est bien,
moi,
c'est assez couillu d'avoir mis ça comme artiste de la part de l'éditeur, c'est bien.
Ça me fait penser à du Raon aussi un petit peu.
Oui, oui, un peu, oui, oui, un peu de ça. Enfin voilà,
c'est
j'ai
parce que le personnage est blond
tête,
et a des
mais...
cheveux longs en fait, c'est pour ça.
J'ai pas des noms en tête, mais voilà. Concernant l'histoire, ça se passe aux îles Féroé, où un jeune, ça se passe il y a longtemps, quand ce cher Thor était jeune, il avait pas encore son marteau, il avait que sa hache.
Et en fait, c'est peut-être le seul comique de la création à faire une histoire qui se passe là-bas.
Un clan, bah c'est plutôt intéressant. Un clan de, une tribu de She-Vikings, de Vikings femmes. A prié longuement Thor pour qu'ils viennent les aider parce qu'ils se sont fait piller toute leur réserve de nourriture et ils aimeraient bien que Thor les aide à débusquer les monstres qui ont fait ça et en fait le comic s'ouvre avec Thor qui se réveille avec la gueule de bois dans à moitié avalé dans la mâchoire d'un dragon géant. Donc c'est assez drôle.
Qui a dû faire une sacrée fête la veille quand même.
Voilà, c'est ça. Tu te rends compte qu'en fait, Thor a fait la fête avec le dragon et que le dragon n'était pas du tout à la base méchant. Et c'est assez drôle. S'ensuit justement des répliques bien gaillardes, quoi, comme Jason Aaron peut nous en faire avec son Thor un peu bourru et qui aime la bonne bière.
Ouais, c'est un Thor très métal quand même.
Et qui, oui, c'est ça.
Et c'est un Thor qui se gratte les couilles.
C'est ça, et qui va donc essayer de débusquer les vrais méchants, et voilà, il va s'en suivre quelques aventures avec ce dragon. Une aventure fantasy, médiévale, très sympathique, avec un Thor assez drôle, le dragon est très drôle aussi, des dessins très agréables, c'est un one-shot qui passe tout seul, où j'ai retrouvé un Jason Aaron qui est vraiment, vraiment bien, pas poussif comme sur l'arc précédent, qui vraiment me faisait chier il y a très, très peu de moments agréables dans les 5 numéros précédents. Donc je suis très content de ce petit aparté qui est très, très bien. Je vous conseille vraiment, si vous avez loupé l'arc précédent, allez sur ce numéro, c'est très agréable à lire. Voilà. Et sur la suite, Sadri Beach revient dès le numéro suivant pour un nouvel arc où apparemment il y aura Galactus et ça va se passer sur Terre.
Ah.
À mon avis, ça va être du lourd.
Tu allais dire, Benny?
Pas du tout. Non, je disais une vanne de merde, et en plus, vu que c'est pas passé, ça passera encore moins bien maintenant.
D'accord.
Voilà.
Moi, j'allais dire, en plus, testez-le, ne serait-ce que pour ce choix graphique qui est vraiment hors du commun par rapport à d'habitude.
Ah bah oui, on a l'impression de lire un vieux Torgal ou je sais pas quoi, de bien de chez nous, quoi. Donc, non, vraiment, très bien. Très, très bien. Je vous conseille.
C'est donc l'arc, c'est le thème de l'arc prochain. Thor va chez le docteur puisqu'il va se faire soigner, il a la gale. Voilà, tu vois la vanne de merde, elle est passée quand même, Benny. C'était pas la même, j'imagine, mais...
Non, pas du tout, non, mais oui. Là, t'as fait mieux.
Je pense.
Bravo.
Je pense que celle-ci, de toute façon, elle est imbattable. Eh bien, on va retourner vers toi, Mister René Benny. Oui, c'était un gros bail, Flo, excuse-moi.
Oui, tout à fait, c'est un très bon bail. Bonne surprise, je m'y attendais pas du tout, je m'attendais à me faire chier. Donc, très bien.
C'est pour ça que tu l'as lu, tu sais, le mec, il a des envies de se faire chier.
Oh, mais après, c'est le côté complétiste. Hein. On l'est tous un peu. On continue de lire des séries qui nous font chier déjà depuis quelques mois et on se dit, il y aura peut-être une bonne reprise. Allez, ça va peut-être revenir.
C'était le dernier numéro où je lui laissais sa chance et heureusement que ce numéro-là était pas chiant parce que sinon j'aurais lâché la série. Donc, très cool.
Qui sait, Galactus, Thor, il y aura peut-être un lien avec Cataclysme.
Ça va se passer sur Terre beaucoup, donc voilà. Donc ça va être sympa, je pense.
Espérons pas. Allez, continuons avec toi, Benny, qui va nous parler de ton coup de cœur de la semaine. Il s'agit de Thunderbolts numéro 21.
Charles Soule est au scénario et Carlo Barberi est au dessin. Et alors, on retrouve cette équipe de Thunderbolts, enfin une partie de l'équipe, donc Venom, Ghost Rider, Deadpool et Red Hulk, ainsi que le leader, qui sont en enfer parce qu'ils ont eu la bonne idée... d'essayer au fait de transporter Mercy, donc ce membre totalement déjanté de l'équipe qui a besoin de mort pour se nourrir. Ils avaient comme plan de la transporter donc en enfer pour qu'elle se nourrisse éternellement d'âmes errantes. Et malheureusement, ça a mal tourné, ils se sont retrouvés piégés dans les limbes.
C'est forcément une bonne idée que d'aller en enfer de toute façon.
Oui, de toute façon, c'était une idée à la con de Deadpool, ou je crois du leader, enfin bref. Et là, c'est totalement délirant. Ils sont absorbés par une espèce de moustache géante au début, enfin tu sais, on comprend pas trop de quoi il s'agit. Et au fait, ils rencontrent Mephisto, qui a été un petit peu démis de ses fonctions. Et du coup, le leader a une idée, il va proposer un pacte à Mephisto, il va proposer un pacte au diable.
Si, en tu, lui oublies, disant, écoute, si tu oublies ta femme, ton identité secrète revient, c'est ça?
C'est plutôt si on t'aide à virer le connard qui a pris ta place, dans ce cas-là, tu nous retransportes sur Terre et tu ramènes Mercy en enfer et voilà. Et alors, bien sûr, il y a besoin de signer un contrat pour ça. Et du coup, t'as Deadpool et le leader dans une scène totalement surréaliste qui lui font signer un truc avec 40 000 clauses différentes. Enfin, c'est ridicule. Et enfin, c'est très drôle surtout. Et donc voilà. De leur côté, sur Terre, il y a Punisher et Elektra, justement, qui se lancent à la poursuite de Mercy tout seuls, quoi, comme des grands. Puisqu'ils sont impatients, ils ne veulent pas attendre que les autres reviennent des enfers, ils pensent que c'est de toute façon foireux et qu'ils reviendront pas. Donc voilà, donc ils préfèrent agir tout seul.
Ça, c'est l'esprit d'équipe comme on les aime.
C'est ça. Non, mais c'est super fandard cette série. Et alors, je vous dis pas qui a pris la place de Mephisto, c'est juste énorme. Franchement, quand j'ai vu ça à la fin, je me suis dit non, c'est pas vrai. Par contre, ça m'a spoiler un truc que je ne savais pas encore et c'est bien dommage. Mais cette série est vraiment géniale quoi. C'est aussi bon qu'un X-Factor de Peter David.
Oui, mais cette révélation que tu ne savais pas, c'est parce que tu es en retard sur la série. Donc
voilà.
C'est pas un spoil de la part de Marvel. Hein.
Ah non, du tout.
Non, disons-le clairement pour pas que les gens aient peur de lire cet épisode.
Non mais totalement. Voilà. Donc en tout cas c'est très très bon, très très drôle, complètement déjanté. Donc méga coup de cœur, méga bail. C'est la série de la semaine chez Marvel pour moi et même la série de la semaine parmi mes lectures.
On va continuer avec un event en cours, un event qui fait pas beaucoup de bruit puisqu'avec des personnages un petit peu plus obscurs. Ça s'appelle Revolutionary War. Et cet épisode-là concerne Knights of Pendragon. C'est écrit par Rob Williams avec Will Slaney au dessin. Alors, c'est la troisième partie de cet event. On avait eu un premier épisode qui s'appelait Alpha, classique de chez Marvel, qui se conclura par un Omega, hein, re-classique. La semaine dernière, on avait eu Dark Angel, épisode qui était centré sur ce personnage de Dark Angel. Je rappelle que très vite, hein, l'histoire, les Mystèques, qui est un espèce de organisation, voilà, qui a un espèce de culte venant d'une dimension parallèle qui essaye de prendre contrôle de la Terre depuis des millénaires, qui avait déjà été vaincu par tous les héros britanniques il y a de ça un petit moment, lors des Mystèque Wars, revient sur le devant de la scène, redécide de conquérir la réalité à nouveau, puisqu'ils ont retrouvé du poil de la bête un petit peu, et Pete Wisdom et Captain Britain sont chargés par Nick Fury et toute une task force du Shield spécial magique et spécial Britain de mettre un terme à l'avancée des Mystèques sur Terre.
Pour faire des Mystèques tartares, quoi, en fait.
Oh putain, oh la vache, moi je l'ai pas vu venir celle-ci. J'aurais dû l'avoir venir, mais non, je l'ai pas vu.
Ouais.
Ils vont se séparer. Captain Britain va essayer d'aller recruter Dark Angel et va être capturé, c'est ce qu'on voyait à la fin du Alpha, par Deathhead, ancien allié. Deathhead, ce fameux mercenaire qu'on a pu voir notamment récemment dans Iron Man. L'épisode 2 donc se centrait sur Dark Angel et puis Captain Britain. Sur cet épisode 3, on va retrouver Pete Woods. Pas du tout le même personnage. Pete Wisdom et Union Jack qui vont aller recruter les Knights of Pendragon. On va donc découvrir deux nouveaux personnages, Dai Thomas et Kate McKellan, McLellan. Et puis surtout, on va découvrir Avalon, cette fameuse cité, mais aussi ce personnage ultra puissant qui représente l'entité magique de la Grande-Bretagne. Ça paraît très compliqué comme ça. C'est vrai que si on connaît pas un tout petit peu l'univers Marvel britannique, C'est très obscur au premier abord, mais franchement, les scénaristes ont fait un boulot de dingue pour que ce soit vraiment accessible pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors dans cet épisode, les fameux Knights of Pendragon qui vont devoir se reformer un petit peu à cause des mystiques qui débarquent, vont se retrouver dans une dimension magique bizarre face à face au roi Arthur, tout simplement, mais zombifié, avec les chevaliers de la table ronde zombie et de la table zombie. En fait, de la table ronde zombie, elle aussi.
D'accord, et comment c'est une table ronde zombie ? C'est une table toute pourrie ?
C'est une des questions qui a été posée dans cet épisode par un des personnages. Comment une table ronde peut être zombie ?
Et oui. Ah, mais quel personnage pose cette question ? C'est ça qui m'intéresse.
Un des héros, justement.
Eh, mais tu peux pas me dire qui ?
On a
on l'est pas connu.
Voilà, c'est Kate hein, qui pose cette question. Mais on a un Pete Wisdom qui passe son temps à se foutre de la gueule de tout ce côté magique du royaume britannique, puisque pour lui c'est très prog. D'ailleurs, quand il entend parler d'Avalon, il se dit ah oui, mais je crois que je les ai déjà vus en première partie de Marillion dans les années 80. Ah voilà, il y a des petites références rock'n'roll.
Non mais je te jure.
Des petites références rock'n'roll qui sont vraiment très drôles. L'épisode est bourré d'humour en fait. L'épisode est vraiment bourré d'humour puisqu'on a la Excalibur zombie. Enfin bref, c'est n'importe quoi, mais c'est fun. Ça se laisse lire vraiment simplement et agréablement. Et on a un final totalement what the fuck, mais de toute façon c'est à l'image de l'épisode, c'est totalement what the fuck. Ça continuera la semaine prochaine dans l'épisode Death Head, qui sera donc la quatrième partie et le milieu de ce petit crossover Evolutionary War, que je trouve pour le moment franchement très agréable et très sympathique. Et j'avais peur que ce soit assez obscur parce que je suis pas un grand fan de l'univers britannique, parce que je le connais pas très bien tout simplement, mais c'est vraiment bien foutu et c'est quand même assez simple à suivre si vous avez un tout petit peu de base Marvel quand même. Donc j'ai envie de dire un petit bail quoi. Moi franchement j'ai passé un bon moment, c'est ce qui s'approcherait le plus d'un coup de cœur cette semaine pour moi. Je n'en ai pas, mais c'est ce qui pourrait s'en approcher le plus, parce que c'est l'épisode qui m'a fait passer presque le meilleur moment, à égalité avec quelque chose d'autre, dont on parlera tout à l'heure. Donc gros bail, et on va terminer avec Benny, qui nous parle pour notre dernier épisode de Marvel de Superior Spider-Man 26, sa nouvelle série fétiche qu'il ne quitte plus alors que lui avait décidé l'année dernière de ne pas y toucher, vile hérésie.
Bah non, mais c'est pas que je la quitte plus, c'est que...
Tu nous as fait le 25, tu nous fais le 26 quoi, tu la quittes plus, je suis désolé.
Ah ouais, mais j'ai cherché quoi lire cette semaine. Et voilà, enfin, je trouvais rien. Franchement, je trouvais rien à lire. J'ai fait les fonds de tiroir, on va dire. Donc voilà. Enfin, j'avais le choix entre ça et lire la suite de Batman Dark Knight avec la suite de l'épisode sans bulle, dont je vous avais parlé l'autre fois, qui était mais vraiment nul à chier, ridicule, etc. Je me suis dit non, je vais quand même m'intéresser à ce qui se passe du côté de Super Spider-Man, surtout que c'est bientôt la fin. En fait, c'est le début du dernier arc. Donc Dan Slott est au scénario et on a du Ramos, du Rodriguez et du Martin au dessin. Donc Humberto Ramos, Marcos Martin et je sais plus Rodriguez, quel est son prénom, Michel Rodriguez.
Javier, je crois.
Javier Rodriguez.
Javier Rodriguez. voilà, donc ce n'est pas Michel. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc trois choses essentielles dans cet épisode, trois phases quoi, trois intrigues qui s'entremêlent.
Parce que trois dessinateurs.
Voilà, exactement. Donc, le bouffon vert fait face au super bouffon. Alors, qui est qui ? Voilà.
Oh, le mec, qui parle en VF. Oh.
Oui, le Green Goblin fait face au Hobgoblin. Ouais, tu sais, à force.
Oh, le mec, il a trop lu Strange.
C'est ça. Hein. Ouais, le super bouffon. Oh, vas-y, crois-le, le super bouffon. Fait face au Green Goblin.
Super bouffon, c'était pas un personnage guignol début des années 90, non ?
Super bouffon, non, c'était super menteur, peut-être.
Non, mais c'était avec Jacques Toubon qu'ils appelaient Jacques Bouffon à l'époque, je pensais à ça. Bizarrement, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça qui me suis revenu en tête d'un seul coup.
Écoute, va falloir trouver une explication et très vite. Donc on sait pas qui sont-ils vraiment. Est-ce que c'est Norman Osborn ? Est-ce que c'est Roderick Kingsley sous le masque ? On ne sait pas. D'un autre côté, il y a les Avengers qui confrontent à nouveau Spider-Man parce qu'ils se doutent qu'il y a quelque chose de bizarre quand même dans ses agissements et donc ils veulent lui faire passer encore une batterie de tests. Ça va évidemment pas bien se passer. Et puis enfin, on a Peter Parker qui est de retour, puisqu'il est toujours dans la tête, enfin en tout cas quelque part, dans l'esprit d'Octopus, parce que bien sûr il a survécu, il n'a jamais été vraiment effacé, qui est dans une espèce de monde assez bizarre, avec des souvenirs à moitié effacés, enfin voilà. Bon.
Est-ce que c'est Marcos Martin qui dessine cette partie ?
C'est oui, mais bien sûr.
Ouais. Parce que je pense que ça pourrait mieux convenir à son style. J'ai pas regardé l'épisode hein, du tout, mais...
Ouais, mais bon, rien d'extraordinaire, en fait. On va dire, c'est très convenu pour le moment. J'attends de voir où ça va. Bon, c'est pas mauvais, c'est juste pas très très intéressant pour le moment, je trouve, mais bon, c'est entre le check-it et le petit bail, quoi. Je vais mettre peut-être un petit bail, en me
un
disant
petit bail
que...
pour un truc pas trop intéressant?
Ça va peut-être intéresser. C'est moi que ça intéresse pas forcément. Peut-être que certains vont trouver ça génial. Je sais pas. Enfin, tu vois, c'est pas mauvais. Mais c'est juste que revoir Peter Parker comme ça, qui revient comme par hasard, alors que son film va sortir. Ne serait-ce que ça, tu vois.
Genre, on l'avait dit dès le départ, quoi. Ça.
Oui, ben non, mais ça me saoule. Enfin, voilà, concrètement. Hein, c'est-à-dire que moi, s'ils avaient eu les couilles de continuer un truc qui fonctionne en plus, Super Spider-Man, je me suis dit bon bah allez, tant pis quoi. Enfin voilà, c'est d'autant plus stupide de revenir à un truc qui était encore plus chiant à lire quand c'était Slott qui l'écrivait quoi. Donc bon.
Donc entre le check-it et le petit bail.
Ouais, voilà.
Et très bien, bah on va terminer. Donc ça a terminé, pardon, notre partie Marvel. On va passer maintenant à notre partie indé. Un seul titre indé au programme cette semaine, c'est toi, Mister Honey Bunny. Je vais éviter de parler trop vite et de bouffer des syllabes. Qui l'a lu ? Ça s'appelle Crossed Badlands. C'est le numéro 46.
Ouais, alors donc on va rappeler ce que c'est Crossed Badlands. C'est Badlands. C'est des histoires, des arcs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais tous. Dans l'univers de Crossed, bien évidemment, hein, pas chez Deadpool. Par différents auteurs, équipes créatives, différents artistes. Ça nous montre un petit peu ce qui se passe à travers le monde, justement. Cet arc-là se déroule à la Nouvelle-Orléans. Alors, c'est déjà la troisième partie, au fait. Daniel Waite au scénario. Emiliano... Urdinola, est au dessin. Alors je vais même pas dire la couleur, oui c'est en plus un studio, donc on s'en fiche. Voilà. Pour un épisode sur la Nouvelle-Orléans, en fait, on va surtout s'intéresser à des gens qui ont survécu sur un bateau. On va voir que justement, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est mieux d'être en mer sur un bateau pour échapper à une invasion de zombies ? Et ben en l'occurrence, dans l'univers de Crossed, pas du tout, puisque rappelons-le, les zombies dans Crossed sont aussi intelligents, enfin relativement intelligents, c'est-à-dire qu'ils arrivent à conduire des voitures, à piloter certains trucs. Enfin, ils sont assez débrouillards, quoi. C'est pas des zombies ramolo à la Walking Dead.
Mais c'est pas des zombies.
C'est pas des zombies non plus, c'est des espèces de fous psychopathes, mais ils ont un côté zombie parce que ils survivent beaucoup à la douleur, on peut leur couper un membre, ça va pas les arrêter, quoi. Donc c'est vraiment entre le... C'est proche des zombies, on va dire, ou en tout cas des créatures de 28 jours plus tard, un petit peu.
Pour voilà. Ce qui est de la conduite de bateau, on le voyait dans Crossed Wish You Were Here, cette série au départ digitale qui a été ensuite imprimée et qui est sortie en français pour son premier tome.
Ouais, on les voyait. Qui était d'ailleurs honnête, hein, parce qu'on tombe toujours à coups de rabattu sur Crossed en disant que c'est vraiment de la merde et que ça a vraiment aucun intérêt. Je trouve qu'il y a plus de bonnes séries liées à Crossed que de mauvaises. Hein. Très franchement, il y a de bons trucs. Quoi. Faut laisser sa chance à cette série.
Bah, tout dépend du scénariste.
De violence. Oui, voilà. Ouais. Bon, alors là, en l'occurrence, Daniel Way, bof, il est pas particulièrement inspiré. Je trouve que c'est assez convenu, tout ça. C'est-à-dire qu'à force aussi, on a fait le tour, quoi, de l'univers de Crossed. À chaque fois, faut trouver des situations, différentes, et c'est sûr qu'il y en a qui vont tout de suite dans l'excès pour essayer de faire un truc original. Voilà, bon, là, pas grand chose à en dire. C'est pas franchement transcendant, vraiment. Donc, je pense que j'irai lire peut-être un autre arc, mais celui-là, je pense même pas le continuer.
D'accord.
Voilà, donc bon, je vais dire un check-it pour les fans de la franchise, quoi, c'est tout. Vraiment à réserver aux fans de la franchise.
Rappelons quand même que c'est la série et c'est l'univers le plus développé chez Avatar, puisque bah déjà la série atteint son 46e épisode, hein, ce qui est assez rare chez Avatar d'avoir des séries aussi longues. Et puis avec toutes les différentes séries entre Wish You Were Here et puis les différentes mini sur Crost, voilà, ça fait un sacré paquet quand même pour se faire la complète de Crost.
Ouais, tout à fait. Et quelle débauche aussi, puisque franchement. Comme à chaque fois, chacun y va de sa petite idée bien glauque et bien dégueu dans chaque arc. Ça fait quand même beaucoup d'idées pour tous les petits psychopathes en herbe qui voudraient se mettre au comics. Voilà.
C'est tellement bien vendu comme ça.
C'est ça. Et en plus, c'est notre seul titre indé, comme tu l'as dit cette semaine.
Et oui, seul titre indé de la semaine. Bah, ça arrive. Il y a des semaines où on ne lit pas d'indé, il y a des semaines où on en lit plus que le reste. C'est comme le temps. Il y a des fois il pleut, il y a des fois il fait beau, quoi.
Putain, c'est formidable ce qu'on dit là.
Bonjour, je fais du remplissage. Allez, on va passer maintenant à notre partie d'essai pour conclure notre semaine de review. On démarre avec un annual, c'est le Batman and Robin annual numéro 2, qui est écrit par Peter Tomasi et avec des dessins de Doug Mankey et de Pat Gleason, bien évidemment. À l'ancrage, on va retrouver Christian Alamy, Keith Champagne, Tom Nguyen, Mark Irwin, Nick Gray et Doug Mankey, un gros paquet d'encreurs. Mais autant sur Humanity, ça se voyait profondément et c'était vraiment désagréable, autant dans celui-ci, ça passe relativement bien. Je ne sais pas ce que les autres qui l'ont lu en ont pensé.
Inhumanity. Oui, ah oui, Inhumanity, ah oui, pardon. Oui. Ah oui, non, parce que je pensais que tu parlais de Doug Mankey qui était sur Inhumanity, donc ça me.
Non, non, je parlais du nombre d'encreurs et du nombre d'artistes.
Oui, oui, même par rapport à d'autres numéros de Doug Mankey, le nombre d'encreurs là se ressent moins. Ça va, c'est assez assez bien.
Alors on va avoir un numéro un petit peu intemporel, hein, pour un annual, c'est de bon ton, on va dire, un numéro qu'on peut lire comme ça, un petit peu au débeauté, où j'avais envie de sortir cette expression.
Putain, déjà, c'est de bon ton, et alors au débeauté.
Oui, allons-y. Voilà, j'ai envie de sortir des expressions un petit peu étranges. On va voir une des premières aventures de Robin, mais Dick Grayson, donc Nightwing actuellement. Pour combien de temps encore, ça reste à voir, mais voilà, celui qui est Nightwing. Sur sa première semaine en tant que Robin, et surtout ses deux premières nuits en tant que Robin. Un épisode qui est plutôt sympathique et qui commence avec justement Nightwing qui raconte à Damian, hein, ça. C'est un petit souvenir à l'époque où Damian était encore vivant. Attention, spoiler pour ceux qui ne le savaient pas, Damian est mort. Et voilà, un Damian qui va être là un petit peu en tant qu'ombre tout au long de cet épisode. On va assister à l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle Tusk, un espèce de Elephant Man avec des défenses. Je sais pas trop comment le qualifier autrement.
Oui, c'est ça, qui a un look assez cool, je trouve.
Ouais, voilà, qui est plutôt pas mal, avec une gueule qui fait bien ennemi de Batman, bizarre, mais voilà, c'est dans le ton, là, encore une fois. Un épisode franchement sympathique, qui ne révolutionnera pas l'univers de Batman, mais que j'ai trouvé sympathique. Moi, j'ai été pris dedans, Tomasi raconte toujours très bien les histoires, comme d'habitude, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, Flo.
Ah oui, tout pareil, vraiment, une narration très, très agréable, ça se lit tout seul. Tomasi maîtrise vraiment bien le duo de Batman et Robin, hein, que ça soit Dick Grayson sous le manteau ou Damian. très agréable à lire, une histoire qui pèpe admin, mais il y a une petite. Enfin, le lien avec Damian est sympathique parce que voilà, ça c'est toujours un. On va dire que Bruce Wayne continue à retrouver un petit peu des petits souvenirs cachés dans le manoir de la part de son fils décédé, et c'est assez beau, je trouve. Puisque c'est ce qui initie l'histoire qu'on va lire dans ce numéro. Donc non, très agréable à lire, visuellement c'est très joli. Voilà, ça se lit très très bien. Non, rien à dire, c'est un numéro qui se lit tout seul. Un bon annual.
Moi, la rigueur, le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est encore ce spectre de Damian qui flotte. Voilà, enfin ça me donne cette impression que...
Ouais, mais moins... Quand même moins, parce que même si ça a été l'élément déclencheur de l'histoire, quand on est dans l'histoire de racontée par justement par Nightwing qui raconte sa jeunesse, on oublie un peu et on s'intègre vraiment dans le duo de Batman et Robin de l'époque, pas par rapport à Damian, mais on voit un peu comment ils vivaient tous les deux à l'époque, et ça c'est intéressant.
Oui. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment ce spectre de Damian qui flotte encore. Il est mort, ok, c'est tragique, ok, pour Batman, hein, si on essaie de se mettre du point de vue de l'histoire, parce que ça reste qu'un héros de papier, rien à foutre qu'il meure ou pas, quoi, à la rigueur. Ça changera pas ma vie. Mais le fait qu'il soit encore autant présent, j'ai l'impression que, sans Damian, pas de Batman. Ça me donne presque cette impression-là, en exagérant un petit peu le trait, bien sûr.
Bah, disons qu'à chaque fois qu'il tombe sur des petits secrets cachés par Damian, effectivement, ça le fait retomber un peu dans ce truc-là. Mais j'ai l'impression quand même, en lisant ce numéro, que là, Batman est plus amusé et plus un regard tendre et moins de douleur, en fait. C'est assez, je trouve que c'est assez fait, assez bien. C'est pas le gros...
Une page
gros,
qui se tourne peut-être, effectivement.
C'est pas le gros... le gros
c'est
deuil
pas le pathos,
qu'il y avait,
hein, oui.
Le gros deuil qu'il y avait dans les premiers numéros, où là, tu sentais qu'il prenait cher, quoi, et qu'il commençait à avoir du mal.
Bon, c'est vrai qu'en même temps, après, je dis que ça flotte... J'ai pas mal d'épisodes de retard sur la série Batman et Robin, qui ne s'appelle plus d'ailleurs Batman et Robin et qui change de titre à chaque arc. Donc peut-être que c'est moins présent dans la série actuelle.
Depuis qu'on est passé à Batman and Two-Face, l'arc en cours avec Two-Face, on parle plus de Damian.
D'accord, ouais, c'est vrai que moi, le dernier épisode de Batman et Robin que j'avais lu, il y avait encore ce spectre de Damian qui flottait. Donc j'ai toujours l'impression qu'on est encore là-dedans. C'est pour ça aussi que ça renforce ce sentiment. Ouais, maintenant, comme je dis, avec quelques épisodes de retard, il est possible que les choses aient changé. Et c'est peut-être une petite bouffée d'air frais que de revenir à Damian. Même si je trouve qu'avec la série Damian, Son of Batman, qui sort actuellement et qui se conclut d'ailleurs cette semaine, c'était peut-être pas la meilleure semaine pour le sortir. Bon, après, ça, chacun verra comme il voudra, hein, évidemment.
Chacun voit midi à sa porte, pour les vieilles expressions de la place du marché.
Bon, en tout cas, enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, le Revolutionary War était presque à égalité avec un autre épisode que j'ai pris plaisir à lire, c'est celui-ci. Donc, ça aurait pu aussi être mon coup de cœur, ce Batman et Robin Annual, parce que voilà, ça se lit vraiment bien, c'est très frais, c'est très agréable, ça coule tout seul. C'est une lecture où on se prend pas la tête et on ressort pas non plus en train de chialer, ni en train de se dire j'ai lu une espèce de merde et j'ai envie de m'ouvrir les veines. Donc, un bon bail, un bon annual, solide, honnête, un annual classique, quoi.
Tout à fait. Un bail également pour moi.
On va passer à un autre annual qui est cette fois-ci ton coup de cœur, Flo. C'est la sortie du deuxième annual de Earth 2.
Oui, écrit par mon chéri, qui sera probablement mon petit chéri tout au long de l'année 2014, Tom Taylor, et dessiné par Robson Rocca, ancré par Scott Hanna. Dans cet annual, on va en savoir plus sur les origines du Batman qu'on voit en ce moment, enfin, c'est-à-dire le nouveau Batman de Earth 2, qui a été introduit par James Robinson à l'époque et qui est au centre des aventures de Tom Taylor dans le titre, actuellement depuis qu'il a repris le titre il y a 4 mois. Et c'est très 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 intéressant, je trouve, et très bien écrit pour l'histoire. Bon. On va se dire, oh, une origine de Batman encore, oui, certes, mais non en fait. Tom Taylor nous prend un petit peu à contre-pied, à rebours avec cette histoire. On va en gros suivre le Batman de la Earth 2, le précédent, qui est décédé, donc, au début d'Earth 2, qui enquête, donc ça se passe en 1994, qui enquête un petit peu sur des meurtres et sur la famille Falcone. Et on va en apprendre, grâce à cette histoire, un peu plus sur Thomas Wayne, son père, et sur ses liens éventuels, je ne vais pas tout révéler, avec un certain Falcone, Frankie Falcone. Voilà, on va dire que dans les années 70, il s'en passait des trucs, et pas des trucs toujours très 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 très, très roses, on va dire.
Ça laisse l'interprétation.
D'ailleurs, pas entre Falcone et Thomas Wayne, mais d'ailleurs entre Falcone et pourquoi pas un autre homme. Et voilà.
Ah, je pensais pas non plus forcément à ça, mais c'est vrai que les années 70 étaient propices à tout un tas d'histoires complètement folles.
Voilà. Et donc, je vais pas vous révéler l'intrigue parce que ça serait vraiment vous spoiler, mais il y a pas mal de rebondissements et c'est très intéressant à lire, très dynamique. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de baston ni d'action, mais j'ai trouvé ça passionnant de bout en bout pour un numéro double. Un point quand même que je note et qui est intéressant dans Earth 2, c'est que les années sont précisées. C'est-à-dire, on sait dans Earth 2 que l'invasion actuelle se passe en 2014. Et les années sont bien précisées. Et donc, on sait que Thomas Wayne, on suit ses aventures dans les années 70, quand il était encore jeune papa, qui rencontrait Frankie Falcon et qu'il faisait un petit peu la fête. Il y a cette mise en contexte qu'on peut retrouver aussi dans la vraie vie, où on parle des années 70, de ces années où on déchantait de la flower power, ces années où l'héroïne faisait des ravages, où on avait des cols pêle à tarte et où le sexe était assez
gueulé. Sex, drugs, rock and roll and disco, quoi.
Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment bien fait. Et c'est extrêmement rare dans DC, qui est quand même plutôt prude sur ces trucs-là, que ça soit évoqué. Je trouve ça cool. Dans l'univers normal de DC, voilà, c'est des choses qui sont pas du tout évoquées, qui sont très vagues, et c'est c'est un peu chiant, quoi. C'est très gamin. Là, c'est évoqué, je trouve ça cool. Moi, j'ai vraiment adoré. Je sais pas ce que t'en as pensé, Tristan. Mister Honey Bunny.
Qui est cette personne? Moi, justement, beaucoup moins. Enfin, j'ai envie de te dire ouais bof quoi. Au fait, tu dis oui le Batman qui a introduit James Robinson. Avant, il y a eu un truc qui s'appelait Flashpoint et une mini-série par Azzarello et Eduardo Risso. Et après avoir lu ça, parce qu'il y a un lien juste énorme entre le Batman qu'on voit là et le Batman de cette mini-série. Après avoir lu cette mini-série par Azzarello et Risso. Franchement, là, ce numéro annual fait vraiment pâle figure et m'a pas appris. Enfin, je veux dire, je me suis pas pris une grosse claque, quoi. Aussi bien sur l'identité du Batman que sur ses origines. C'est pas inintéressant ce qu'on voit dans ses origines, mais bon, c'est pas non plus. Ça m'a pas tellement surpris, quoi. Je veux dire, je m'attendais un petit peu à un truc comme ça. Alors aussi il y a un truc qui m'a bien fait marrer à ma lecture, là il s'agit durant tout l'épisode d'un certain Francesco Francavilla qui a vachement influencé la vie de ce Batman de Earth 2. Et alors ça m'a fait marrer pendant tout l'épisode de voir marquer Francesco Francavilla et je t'en ai parlé Flo et tu me disais que toi il y avait pas ça dans ta version papier, parce que moi je l'ai lu en version digitale à partir de Comixology.
Non, en fait le personnage de Falcon dont je parle, c'est Frankie Falcon, Francesco Falcon, et à un moment il y a un personnage qui crie Francesco Falcon, sur mon comics papier c'est bien la famille Falcon, hein, pas la fameuse famille mafieuse Francavilla.
la version digitale donc sur Comixology c'est effectivement Francesco Francavilla qui est nommé.
C'est n'importe quoi.
C'est-à-dire que il y a quelqu'un chez DC qui soit ne l'aime pas du tout, soit l'aime trop pour mettre son nom un peu partout. En tout cas, je pense que celui qui a fait l'erreur va sûrement perdre son emploi.
Mais je sais pas, en fait je me souviens plus si c'est parce que là je suis en train de chercher si c'est à plusieurs reprises qu'il y a marqué Francavilla.
Oui, c'est à plusieurs reprises, oui.
Mais il me semble, hein, il me
en fait,
semble
à chaque fois qu'il y a marqué Falcone, c'est marqué Francavilla.
Il y a dû avoir la fonction recherchée et remplacée.
C'est vraiment bizarre.
Mais vraiment, à chaque fois, il est marqué Francavilla au lieu de Falcon. J'ai pu vérifier dans ma version digitale aussi sur Comixology, j'avais la même chose.
En plus, en rantaine, tu vois, j'ai commencé à dire ça, il y a marqué Francavilla, et vous me preniez pour un fou, quoi. Genre, j'avais fumé la moquette.
Oui, parce que moi, je ne l'avais pas encore ouvert et ne l'avais pas encore lu, donc j'ai été vérifié aussi. J'avais bien le problème.
On va demander au lettreur un certain Daisy Scientis qui lui a pris.
Normalement, ça, si ce n'est pas déjà corrigé, ça va être corrigé sous peu au moment où vous écouterez cette émission.
Le mec, au fait, il a des tocs, tu sais, faut toujours qu'il sorte des noms d'artistes. C'est à un moment, il a marqué Brian Michael Bendis.
En
le
gros.
Mec, il va à la charge en gueulant ça.
Bon, après
une erreur assez drôle quand même.
Oui, après cet aparté assez marrant. Oui, c'est assez drôle, c'est... j'avais jamais vu ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment assez passionnant. Effectivement, j'ai pas lu Batman Knights of Vengeance, la mini de d'Azzarello Risso. Mais voilà, enfin, on va peut-être pas en dévoiler vraiment, vraiment, pour garder la surprise au lecteur, mais je trouve ça super bien, quoi. Ce que fait Tom Taylor sur Earth 2, donc lisez cet annual, c'est très très bien.
Flo qui m'envoie carrément la capture, enfin pas la capture, mais la photo via MMS de la page de.
Ah bah oui, quand même.
Avec, oui, bah oui, bien marqué effectivement Falcon, et moi j'ai marqué Frank Cavilla, quoi.
Donc Benny, pour toi, ce sera quelle note ce Earth 2 à nouveau?
Alors,
numéro 2.
Au fait, au début, c'était juste un check-it parce que ça m'a pas vraiment passionné. Et enfin non, un petit bail, allez, parce que voilà, c'est quand même important, c'est quand même un personnage important, et donc voilà, on est sûr de qui c'est au fait avec cet épisode.
Oui, c'est Frank Cavilla le méchant.
Mais ce sera voilà, ce sera encore plus un bail, même parce que pour cette histoire de Frank Cavilla.
Ouais, mais bon, c'est un problème qui devrait être corrigé rapidement si ce n'est déjà fait.
Je sais pas, ouais, enfin bon, en tout cas, ça m'a bien fait marrer cette histoire.
Donc on va passer maintenant à toi, Benny, qui va nous parler du numéro 27 de Teen Titans, série qui compte ses jours.
Ouais, ouais, bah, série qui compte ses jours, et pour cause, hein, parce que alors, c'est pas terrible, terrible, la direction dans laquelle ça part. Donc Scott Lobdell est au scénario, Tyler Kirkham est au dessin, et Art Tibbert est à l'ancrage. Voilà, alors tous les Teen Titans sont moroses parce que leur grand ami comment s'appelle-t-il, Kid Flash, au fait s'avère être un pourri, en tout cas c'est ce qu'on leur dit. Il serait du mauvais côté de la barrière, il aurait fait des choses pas bien. En même temps, comme je le disais l'autre fois, bon bah il a tué des gros pourris dans une dimension où dans son monde où vraiment c'est l'anarchie la plus complète. Il a fait ça pour protéger donc sa petite sœur. Donc tu te dis bon, enfin voilà, comme méchant on a vu pire. Le problème dans ce scénario, c'est qu'il est vraiment représenté avec une sale tête. Genre à partir du moment où tu lui dis qu'au fait c'est un méchant, il est représenté tu sais avec un regard super sombre, genre Dark Vador quoi, tu vois, genre le mec d'un seul coup il est parti du côté obscur. Enfin voilà, c'est vachement forcé. Et là au fait cet épisode c'est le procès de Kid Flash. Alors ça fait vachement vachement penser à ce qui se passe chez Marvel avec le procès de Jean Grey, avec l'Empire Shi'ar qui juge Jean Grey. Là c'est un peu pareil, c'est l'espèce d'empire de je ne sais quoi avec un haut conseil encore une fois, enfin bon bref, c'est très cliché tout ça. Et voilà, bon bah c'est tout ce que je peux dire de cet épisode. En filigrane on voit aussi ce qui se passe avec Superboy qui est justement plus intéressant que ce qui se passe avec Kid Flash. Je vais pas en révéler plus puisque sinon ça va être un petit peu spoiler. Mais voilà. Enfin, c'est dommage que ça prenne cette direction. En même temps, peut-être qu'ils font ça pour mettre un terme à cette série. Mais voilà, je trouve ça pas très inspiré. Bon, sacrifier le personnage de Kid Flash de cette manière, je vois pas l'intérêt. J'aurais préféré qu'ils ne l'utilisent pas à ce moment-là dans les New 52 et qu'ils nous mettent dès le début Wally West, par exemple, en Kid Flash. Quitte à relauncher un petit peu tout ça, voilà.
Les réjouissons où Wally West arrive.
Oui, Wally West arrive. Non, mais de toute façon, ce sera différent. Mais bon, voilà, je trouve que faire ça de Bart Allen, c'était pas forcément utile. Enfin, voilà. Donc, peut-on dire maintenant que c'est Bart Allen, puisque de toute façon, c'est quelqu'un d'autre, au final. Bon, bref. Voilà, juste un check-it. Parce que malgré tout, si on fait l'impasse là-dessus, vu que c'est les derniers épisodes, on va quand même louper la conclusion, quoi. Donc voilà, juste un check-it, parce que c'est pas forcément très bon.
On continue avec toi, Flo, qui va nous parler du 15e épisode de Talon.
Oui, après la fin du run le mois dernier de James Tynion IV sur le titre, on arrive ici avec un one-shot écrit par Marguerite Bennett. Si vous vous souvenez de cette jeune auteure encore étudiante en littérature qui était, je crois, dans la classe de Scott Snyder et dans la promo de James Tynion IV.
Et qui avait Madame Poisson
un one-shot donc dessiné par George Lucas, qu'on avait déjà vu sur un numéro de la série. Un one-shot qui va s'intéresser à un personnage, à un Talon, Et Marguerite Bennett va essayer de rentrer dans la psyché d'un Talon. Et c'est plutôt intéressant. L'histoire se place dans le présent et dans plusieurs épisodes flashback. Dans le présent, il est en fait dans le labyrinthe, le fameux labyrinthe qu'on a vu dans Batman, dans Court of Owls, où justement les gens se font pourchasser par des Talons. Il va un peu délirer, avoir un petit peu des hallucinations, et se rappeler un petit peu d'épisodes de son passé, que ce soit son entraînement de Talon, le truc qui a fait qu'il a été un peu recueilli par la Court of Owls. Le pauvre, il a pas une vie facile, vraiment. ça se passe dans l'entre-deux-guerres, voilà, sa jeunesse se passe en 1918, et c'est assez triste. Voilà, on va le voir en fait délirer un petit peu, avoir des visions comme on avait vu dans l'épisode, ce fameux épisode de Batman, où parfois il se voyait transformé en hibou, vous voyez, avec des plumes, des choses comme ça. Et là, c'est un peu pareil, il a des épisodes un peu étranges. Voilà, c'est un one shot, donc c'est une écriture assez stylisée qui se tient toute seule, voilà, du début à la fin. C'est une expérience, on va dire. Voilà, Marguerite Bennett essaie de prouver un petit peu qu'elle sait écrire des choses, qu'elle a un style, qu'elle a un bon style pour les comics, assez fluide. C'est plutôt le cas. Ce que j'avais déjà lu d'elle est plutôt fluide à lire, et voilà, c'est pas lourd et c'est plutôt sympathique. Après, ça a pas un grand intérêt, mais rien que pour la découverte un petit peu de cet auteur, c'est bien. Moi, ça me donne envie qu'on lui donne un petit peu des vraies histoires à écrire plutôt que juste des one-shot, quoi. Parce que là, elle prouve pas vraiment sa capacité à construire des histoires, mais plus à avoir un style.
Je crois que j'avais lu, je me demande si c'était pas elle, j'avais lu un truc,
elle a écrit un annual de Batman, oui, le dernier.
Avec Arkham, etc., l'asile d'Arkham, et j'avais trouvé ça vraiment mauvais, personnellement.
Ça a été mauvais, et elle avait fait un one-shot sur Lobo aussi, qui était pas très intéressant, mais qui était pas mal écrit du tout. Enfin voilà, je le trouvais plutôt bien écrit, même si
tu lui laisses sa chance parce que tu es gentleman, au fait, voilà, c'est ça.
Oh non, pas du tout. J'ai envie que DC lui donne sa chance sur un truc pour voir vraiment ce que ça vaut, si c'est de la merde ou pas.
Ouais.
Voilà, tout simplement. Donc je lui laisserai sa chance avec un petit check-it.
On passe à Catwoman numéro 27, qui fait partie de ce crossover, on va appeler ça comme ça, Godtopia, que j'ai dit que j'allais lire, en tout cas que j'allais essayer de lire en entier. C'est scénarisé par Anne Nocenti, avec Pat Olive au dessin, accompagné de Cliff Richards, et à l'ancrage Cliff Richards aussi, et Tom Nguyen. On va suivre un petit peu le même schéma qu'on avait suivi pour Batman, pour Batwing et pour Batgirl, à savoir Catwoman qui est dans cette réalité de Godtopia où tout est beau, tout est merveilleux, tout est blanc, Gotham est la ville la plus sûre des États-Unis. Et puis elle va se rendre compte que cette réalité, ou en tout cas dans le cas présent, on va lui faire se rendre compte que cette réalité n'est peut-être pas la véritable réalité, et que sous la lumière, la crasse, quoi. Le problème, c'est qu'on arrive au quatrième épisode où on a à peu près le même schéma. Et ça commence à devenir rébarbatif d'avoir ce même schéma. Alors, encore heureux, on arrive à la fin de ces épisodes introductifs de Godtopia, et dès la prochaine fois, normalement, on devrait pouvoir commencer à avancer sur les histoires. On a un petit rappel à ce qui s'est passé dans Detective Comics 27, à savoir que Batman a pété les plombs, a été enfermé à Arkham, notamment grâce à Catwoman, qui s'appelle Catbird, hein, dans cette nouvelle réalité. Elle va affronter la version normale de Catwoman dans ses propres rêves. Certes, le setting est différent pour se rendre compte que la réalité n'est pas la même chez chacun des persos, mais comme je dis, ça devient assez rébarbatif, parce que c'est la quatrième fois qu'on voit que le personnage est bien dans sa réalité et se rend compte que quelque chose ne va pas, mais qu'il n'a pas vraiment envie de quitter cette réalité où tout est merveilleux, cette espèce d'utopie, d'où le nom Godtopia. Donc, c'est sympa. Visuellement, c'est assez intéressant. C'est pas dégueu, quoi. En plus, on a des petites cases assez sympathiques. On a notamment tout ce passage dans le rêve où elle va cambrioler une famille à Noël, avec des dessins vraiment sympas sur l'arrière-plan. Des choses, une rupture de style d'un coup, qui est plutôt pas mal venue. Bref, un épisode qui est sympa mais qui n'est pas transcendant. Ce sera qu'un check-it. J'ai hâte de lire les parties 2 de chacune des séries afin de voir où ça va aller et voir si je vais continuer ce crossover qui, certes, commençait très bien, mais commence à me décevoir maintenant de par son côté répétitif. On va terminer notre partie d'essai avec Flo, qui a lu le deuxième annual, qui sera aussi le dernier annual de cette semaine, de Green Lantern Corps.
Scénarisé, enfin coploté par Van Jensen et Robert Venditti, scripté par Van Jensen et dessiné par Neil Edwards pour la partie principale et quelques pages de Tom Derenick pour des parties origines des vilains. Voilà, une page chacun. Alors, en fait, ça reprend vraiment la suite de Green Lantern Corps il y a une semaine ou deux, avec cette race un petit peu de shapeshifters, un peu à tentacules, qui en avait gros sur la patate contre le Green Lantern Corps.
Oui, c'est aussi la suite de ce qui s'est passé dans le Green Lantern 27.
Oui, tout à fait. Et dans Green Lantern, oui, je comprends. Oui.
Dans les deux justement, suites, on voyait ça, cette race qui s'appelle les Durlan. Hein,
oui, les Durlan, voilà, j'avais pas le nom.
Bien connu de l'univers DC.
Je les connaissais pas. Donc, voilà. Je les connaissais pas et ils m'intéressent pas des masses, je vous avoue. Et leur motivation non plus. Si ce n'est que là, en gros, ils vont essayer dans cet annual de fédérer des méchants, dont certains bien connus des Green Lantern. Voilà. Si, ceux qui ont eu le run de Geoff Jones, de Peter Tomasi, avant Peter Tomasi.
Le dessinateur de Watchmen, Dave Gibbons, voilà. Il a fallu dire dessinateur de Watchmen pour que ça revienne. C'est horrible. Pauvre Dave Gibbons, quoi, qui n'en est réduit qu'à ça dans sa carrière. C'est terrible.
Quelle culture comics qu'on a. Voilà, ils vont essayer de les faire les rejoindre contre le Green Lantern Corps et ça va pas se passer tout à fait comme prévu. Voilà, beaucoup de bastons, un retournement sur la fin. Avec peut-être un truc intéressant sur la fin, mais très honnêtement, c'est pas passionnant. Autant ce numéro dans un numéro normal, ok, mais là étalé comme de la confiture sur un annual, c'est indigeste, totalement indigeste. Je l'ai lu en deux fois ou en trois fois cet annual.
Ah oui,
tellement c'était chiant à lire, vraiment. Et indigeste, voilà, vraiment trop long quoi.
Mais c'est le problème, je trouve, de cette reprise de Green Lantern, c'est que ça fait des mois que je le dis depuis qu'ils ont repris les titres, c'est les montagnes russes, putain. Il y a des épisodes où ça démarre, tu dis, oh putain, il y a des bonnes idées, oh ça va partir, et l'épisode d'après, pas, ça s'écroule, et tu dis, en fait, c'est vraiment à chier. Et quand tu te dis, je vais laisser tomber, tu lis un numéro qui te dit, ah ouais, non, en fait, merde, il va peut-être se passer un truc, je continue. Et ça redescend encore.
Ouais, c'est-à-dire que là Van Jensen, écrit bien. Il écrit plutôt bien, mais on sent qu'il est prisonnier de son format et qu'il doit, il doit remplir des trucs, quoi. Et il sait pas vraiment décompresser comme le ferait un Bendis avec des immenses double splash pages et trois mots dedans. Il n'arrive pas à décompresser, donc il est prisonnier de son format. Donc il fait parler, mais c'est pas désagréable, mais c'est chiant, quoi. Voilà, c'est pas très très intéressant, je dirais. Après, visuellement, les parties de Neil Edwards sont correctes. Je suis pas fan de ce dessinateur. Et les parties de Tom Derenick sont assez moches. En fait, il fait à chaque fois une page qui concerne les origines de chacun de ces vilains, justement, contactés par les shapeshifters. Des origines dont on se fout totalement, qui n'ont aucun intérêt. Ça rajoute des pages. Voilà, on sent qu'il a voulu gaver et rajouter des pages pour remplir l'annual. Donc c'est pas très intéressant et pour moi c'est un pass. Je suis vraiment désolé pour Green Lantern Corps. Honnêtement, je me suis fait chier. Autant sur un numéro normal, j'aurais dit allez, c'est un petit check-it parce qu'on va avoir la suite et tout. Là, j'ai payé 6$, 5 euros pour ça. Voilà, un peu lourd, quoi. Pas intéressant, j'ai pas passé un bon moment de lecture, quoi. Contrairement aux autres, annual.
Justement, avec ces différents annuals, le DC a montré les trois types d'annuals que l'on peut avoir juste sur cette semaine-là. Avec le Batman et Robin, qu'on peut lire totalement indépendamment et qu'on peut lire quasiment n'importe quand, à condition d'avoir lu la mort de Damian, enfin en tout cas de savoir qu'il est mort. Le Earth 2 qui est connecté avec l'univers, mais qui n'est pas une obligation à lire, et le Green Lantern Corps qui s'inscrit, lui, dans la continuité réelle de l'histoire.
Ah oui, ça donc pourrait être le Green Lantern Corps 28, sans problème, hein, aucun, oui, vraiment.
Donc voilà, on a vraiment les trois types d'annual, après avoir lequel type vous préférez. C'est vrai que y a des personnes qui détestent que les annual... fasse vraiment partie intégrante de l'histoire. Il y en a d'autres qui n'aiment pas les annuals qui ne servent à rien. Enfin, qui ne servent à rien, en tout cas, qui ne font pas avancer d'un poil l'histoire comme celui de Batman et Robin. Voilà, au moins vous en avez pour tous les goûts. Après, faut-il encore que vous aimiez la franchise de l'annual.
Si cette histoire de Shapeshifters vous intéresse, lisez-le, ça va vous, un peu vous intéresser. Parce qu'il y a quelques rebondissements, mais sinon, ça va vous enterrer définitivement.
Bref, moi, tu vois, j'avais envie de le lire, ce Green Lantern Color Annual, je ne l'ai pas encore acheté. Maintenant, j'ai des doutes, parce que j'ai lu le Green Lantern 27 avec un petit peu de retard, et je me suis dit, ah, il y a peut-être un petit intérêt, même si, bon, c'est encore faire tomber le corps un petit peu plus bas. Mais je me suis dit, ah, peut y avoir de l'idée, mais si...
C'est pas évoqué, ce truc-là n'est pas évoqué, là. Enfin, au tout début, mais voilà, pas tellement.
D'accord, oui, bon, bah alors, finalement...
C'est plus une grosse baston.
Ouais, ouais. Ça me fait chier de payer $6 pour ça, quoi.
Donc voilà.
Donc un pass pour cet annual.
Ouais, un pass plus, on va dire. Voilà.
Allez, on va terminer avec les TPB de la semaine, comme on fait d'habitude. On commence avec du DC, avec ressorti en nouvelle édition de Batman and Son au prix de $20, qui contient les épisodes 555 à 558, 663 à 669 et 672 à 675 de Batman. Alors vous avez tout un joli paquet d'épisodes, hein, pour pas si cher que ça, une vingtaine de dollars si vous ne les avez pas déjà, parce que ça reste maintenant des histoires presque que tout le monde a, vu le nombre de fois où c'est sorti en TPB. C'est l'apparition de Damian, hein, dans la vie de Batman, tout simplement, d'où le nom Batman and Son. Écrit par Grant Morrison, dessiné par Andy Kubert. Comme par hasard, ça coïncide avec la semaine où se termine la mini-série de Kubert qui s'appelle Damian Son of Batman, et qu'on a cet annual de Batman et Robin.
On rappelle, c'est qui sonne, c'est Morrison.
Merci pour cette intervention absolument inoubliable.
Batman and Son.
Passons chez Dynamite maintenant. Dynamite qui nous sort un gros bouquin en hardcover qui s'appelle Art Vampirella Warren Covers. Pour ceux qui ont envie d'avoir des jolies planches et d'être tout émoustillé.
Voilà, c'est ça.
Tout émoustillé avec les plus belles covers de Vampirella de l'époque Warren Publishing, avec donc les épisodes 1 à 112 ainsi que l'annual de 72, hein, toutes ces magnifiques covers qui sont représentées là. Pour $40, c'est un véritable artbook. On a du Franz Zeta, on a du San Julian, on a du Henrik, on a du Ken Kelly. Bref, on a vraiment la crème de la crème en ce qui concerne les dessins de Vampirella de l'époque, des dessins qui étaient vraiment sublimes et qui, rappelons-le, à l'époque où c'est sorti, étaient quand même assez osé.
Ouais. Ouais. Ouais.
Voilà, qui n'a pas fantasmé plus jeune en voyant des images de Vampirella.
Voilà, surtout Steve. Hein.
Oh bah oui, clairement. Enfin, moi surtout que j'avais accès au bouquin, donc oui, forcément. Ce sont des images qui sont gravées dans ma tête de jeune adolescent prépubère.
Et pas que dans ta tête. Et ça, c'est ça te rappelle des souvenirs émus.
Tout émoustillé, tout humide, dirons-nous. Passons chez IDW avec la sortie de la magnifique mini-série de Stephen Mooney, Half Past Danger, en hardcover. C'est au prix de $30. Une mini-série très pulpy avec des personnages hauts en couleur. Ça se passe en 1943 sur une île du Pacifique Sud. Vraiment très très bonne série. Je sais pas si l'un de vous l'avait lu, Half Past Danger.
Je l'ai pas fini en fait. Mon libraire a oublié de, je sais pas. Il me manque les deux derniers numéros. Ce que j'ai lu était très bien. Mais du coup, ça fait au moins 3 mois que j'ai pas lu. Ça m'emmerde. Mais ouais, c'est très très cool. Très très sympa. Il y a du Indiana Jones dedans, de l'espionnage, des dinosaures. Ouais, c'est très cool. C'est très très sympa.
Ouais, il y a du nazi, il y a tout. Enfin voilà, je veux dire, c'est du pulp, quoi. C'est du pulp. Et c'est Stephen Mooney qui fait tout. Très talentueux.
Et Jordi Belair qui colorise.
Mais Jordi Belair qui colorise, ouais. Voilà. Et en plus, un mec extrêmement, extrêmement sympathique. Toujours chez IDW, la sortie de l'artiste édition numéro 2 de John Romita sur Amazing Spider-Man. Uh-huh. Alors, c'est très très cher, ça vaut $190, effectivement.
Ouais, alors attends, père ou fils, parce que c'est ça la grande
John
question.
John Romita, senior.
Senior, donc senior. Ok, donc on a des épisodes de Stan Lee.
Exactement, on a 8 épisodes, en fait, mis avec ses planches, les artistes éditions, hein, voilà, ce sont les planches originales. Ça fait 216 pages, alors c'est vrai que 216 pages, seulement 8 épisodes originaux, $190, ça peut vous paraître cher, mais ces artistes éditions sont véritablement des objets de collection pour des gens avertis qui ont envie de vraiment voir le travail de l'artiste avec les planches originales. En plus, c'est un format vraiment planche. Enfin, voilà, bah, les artistes
musée,
édition,
hein,
quoi.
Voilà, c'est un musée, quoi.
11x17 pouces, superbe papier. Voilà, c'est comme si on avait des planches en vrai, sauf qu'elles sont imprimées. Mais c'est très très bien, c'est très très beau.
Ah, c'est,
vous pouvez, c'est grand, vous pouvez en servir comme plateau repas aussi.
Vous pouvez déchirer les pages proprement, les encadrer et dire que vous avez un original de Romita.
Vous imitez la signature, ça se trouve sur le net très facilement. Et voilà, c'est réglé.
Et vous vous faites deux fois plus de fric comme ça.
C'est comme
même,
ça qu'il fait Benny pour avoir des planches.
Ben, c'est ça en fait. C'est comme ça que j'ai eu toute ma fortune, hein. C'est grâce aux artistes éditions.
Allez, on continue avec la sortie.
Cave,
la sortie, toujours chez IDW, du Superman Golden Age Sundays de 1943 à 46. Ce sont les strips de Superman de ces années-là qui sont réimprimés. Les Sunday Pages, hein, donc ces pages en couleur. Ça vaut $50, là encore une fois, pareil pour les gens qui ont envie de découvrir un petit peu l'histoire du comics, notamment. Collection qui, rappelons-le, a été mise sur pied grâce à l'apport énorme de Mark Waid, puisque Mark Waid, on le sait, est un énorme fan de Superman, et c'est grâce à lui qu'il a pu avoir cette collection, puisqu'il possède quasiment tous les exemplaires. Il a réussi à trouver des copies de tous les strips, et c'est lui qui a pu les fournir pour monter cette collection.
Ce qui est incroyable, hein, puisqu'il n'a lu aucun épisode en plus.
Voilà, c'est ça, il les collectionne sans jamais les lire.
C'est ça, c'est ça. Mais non, mais de toute façon, c'est le seul aussi artiste qui ne sait pas lire.
On continue chez Image avec la sortie d'une série assez peu connue en TPB, le troisième volume de Perapaz Notes, série de Todd DeZago et Craig Russo, au prix de $18. Voilà, c'est la fin normalement de la série. Je le mentionne parce que c'est une série qui est pas assez connue, je trouve.
Bah, Todd DeZago, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a pas entendu parler. Il faisait du Spider-Man dans les années 90, là, Sensational Spider-Man, je crois.
Oui.
Avec Ringo, d'ailleurs, au dessin. Mm-hmm. À l'époque.
Un artiste qui, enfin, un scénariste, pardon, qui a, bah, qui a un petit peu disparu du mainstream, en
ouais.
tout cas.
Ouais, complètement.
Toujours chez Image, mais cette fois-ci dans la branche Topco, nous avons Darkness Rebirth volume 3 qui sort au prix de $18 avec les épisodes 112 à 116 de la série The Darkness. C'est écrit par David Hine avec des dessins de Jeremy Owen. Et oui, c'est vrai que
voilà, ça se retient bien.
On a tendance à oublier que The Darkness continue, tout comme Witchblade, hein, des séries qui...
Et tout comme Cyberforce, dont oui, le numéro 28 sortait cette semaine et j'étais intéressé mais je l'ai pas trouvé.
C'est l'épisode 8, en fait, du volume 4.
Oui. Je crois que c'était l'épisode 28.
Non, 8.
Ah, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas trouvé, parce qu'au fait, sur Comics List, que je consulte quand même pour savoir ce qui va sortir, ils ont marqué 28. Ou bien alors, j'ai été encore bourré, comme avec Frank Cavilla tout à l'heure.
Mais... Sans doute. C'est l'édition digitale de Comics List où il y avait écrit 28, juste pour chercher.
Ah, c'était écrit 28, d'ailleurs, ça m'étonnait. Je me suis dit, putain, déjà 28 numéros, alors que la série, il me semblait qu'elle était sortie il y a pas longtemps, qu'elle avait commencé il y a pas longtemps. Non, mais ça doit être une erreur de leur part, alors.
C'est possible. Voilà, donc Darkness, hein, qui continue son petit bonhomme de chemin, bah, tout comme Witchblade, voilà, des emblématiques de Topco des années 90 qui existent encore et qui continuent d'avoir leur base de fans.
Oui, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je te dis Cyberforce qui n'a rien à voir avec...
Bah si, c'est chez Topco.
Attends, c'est chez Image ou chez Topco? Je
c'est
sais
chez Topco,
doute.
C'est la branche à Sylvestri.
Ah oui, c'est ça, bah oui, bah voilà, en plus. Donc,
Continuons avec un Masterworks qui sort, le Masterworks X-Men volume 6, mais version souple, avec donc pas mal d'épisodes. Je n'arrive pas à voir le détail malheureusement des épisodes qui sont contenus là-dedans, mais c'est du Roy Thomas, du Neil Adams. On est dans la première partie des X-Men. Les X-Men en Savage Land, c'est la fin de la série, donc ça va être aux alentours des 50-60 à peu près.
50 à 59 je pense, un truc comme ça, ou 52 à 59 peut-être. C'était la fin, voilà, ça devait être la fin du run.
Ouais, c'est ouais, ça. Après, bah, ça va donc jusqu'à 63, je crois, de mémoire. J'ai un doute, faudrait vérifier.
Oui, si, je crois. Je crois que c'est 63 et après ça recommence, ou 64 et après ça recommence à 94. Justement, c'est le... c'est peut-être 64 parce 66. Qu'après c'est inversé.
66.
Ah, c'est 66 mmh. Ah bah autant pour moi. Alors. Ok.
Oui, donc voilà, on a une aventure au Savage Land avec bien sûr Kaisar, forcément, mais aussi Sauron, hein, qui était l'ennemi que les X-Men allaient combattre au Savage Land. On a du Havoc, on a du Polaris, on a un petit peu tout ça. Ça vaut $25, hein, ce sont les versions souples, donc beaucoup moins chères des Masterworks. Et enfin, Warlock par Jim Starlin, TPB Complete Collection, $35 avec, beaucoup de choses. Strange Tales numéro 178 à 181. La série Warlock de 1972 avec les épisodes 9 à 15, hein, ceux qui étaient faits par Jim Starlin. Le Avengers Annual numéro 7 et le Marvel Twin One Annual numéro 2. Marvel Twin One, hein, qui était la série où la chose était en tandem avec quelqu'un. Et donc là, cette fois-ci, c'était avec Adam Warlock. Adam Warlock, ce personnage qui a un petit peu disparu. Un personnage cher à Jim Starlin, tout comme Thanos.
Qui avait transformé Thanos en pierre, d'ailleurs.
Mm-hmm. Oui, enfin voilà, le gardien des gemmes d'Infini.
Je sais comment tu me dis ça, on dirait un gros pervers.
Mm-hmm. le gardien des gemmes de l'Infini, vous allez assister au début de Gamora, de Pip le Troll aussi, des personnages que l'on connaît bien aujourd'hui. Bref, c'est au prix de $35 pour ceux qui auront envie de redécouvrir Jim Starlin sur Warlock et peut-être découvrir ce personnage de Warlock. Ouais. Et c'est tout pour nos TP de la semaine. Deux petites choses sympathiques à se mettre sous la dent. Bon, des choses très chères aussi.
Ouais.
Comme l'artiste édition.
Ouais. Bah, c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs le plus, la rigueur. Si vraiment un jour je me lançais dans ces artistes éditions, je pense que je commencerais par du Amazing Spider-Man, ça me semble assez évident. Ou alors du Tales from the Crypt. Puisqu'ils en ont fait aussi.
Ah ouais. Il y a de très très bonnes artistes éditions à découvrir si vous avez la bourse qui vous le permet, surtout parce que c'est vrai qu'elles sont très chères, mais comme on le dit, ce sont véritablement des objets de collection. Donc à lire en mettant des gants pour ne pas faire de traces sur les pages. Bande de dégueulasses.
Oui, puis à lire aussi, avoir de l'espace pour lire ça, parce que c'est vraiment ça prend de l'espace, quoi, ça prend de la place.
Non, mettez-vous carrément dans votre jardin, hein. Ça ira plus vite.
Je suis pas certain que ce soit le meilleur moyen pour pas les squinter.
Dans cette saison.
Mais oui, c'est ça, lisez-le sous la pluie, puis rachetez-en d'autres et faites marcher le commerce. IDW, on a besoin. Allez, c'est tout pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour notre suite des reviews. De la semaine prochaine, forcément. On va pas vous faire ceux de la semaine dernière.
Parce que c'est déjà fait.
Ce serait concept, hein. Ce serait concept.
C'est beau ce qu'on dit ce soir, c'est fou. C'est plein de bon sens, moi j'aime bien.
Le Comics Weekly à rebours.
Je reviendrai.
D'ici là, vous nous retrouvez aussi bien sûr mardi pour le Weekly News, votre dose d'actu comics. Entre-temps, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et retrouver toutes les anciennes émissions sur le site ou sur iTunes. À la semaine prochaine, amusez-vous et portez-vous bien.
À la semaine dernière.
Ciao, ciao.
And you're heading up to Brisbane.